RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Hello. Oui, attends. Prends le bon micro là. Voilà. Ouais. Non mais c'est bon.
C'est bon. On entend. Ouais. Ah ça y est, je m'entends.
C'est bon, ça marche.
Ah oh, quelle voix enchanteresse que j'ai. Alors, comment vas-tu?
Ça va.
Aujourd'hui, on est le 18 octobre. Je reçois Olivier Biancogne. Olivier, comment ça va?
Ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ces studios qui me sont chers.
Salut Olivier.
Alors, salut. Aujourd'hui,
ça va? Oui, ça va.
On est le 18 octobre. Il reste 75 jours avant la fin de l'année. C'est le jour du piment.
Ouais.
Hein, c'est pas mal, ça, le jour du piment. Qu'est-ce qui s'est passé un 18 octobre? Alors, il y a eu en 629 le couronnement du roi Dagobert. Et on avait appris la chanson à l'école.
Qui a mis sa culotte à l'envers, etc.
À l'envers, tout ça. En 1867, il y a eu l'achat de l'Alaska par les États-Unis. Alors, à l'époque, il n'y avait que 10 000 habitants. Hein, c'était les Russes. Mm. Et ils l'ont acheté 7 millions de dollars à l'époque. Anto qui nous fait un petit coucou.
Salut Anto.
Comment ça va? Il est beau, hein?
Il est bronzé, hein?
Il est sportif et tout. Ouais. Il s'est affiné. Je crois qu'il va. Alors, ensuite, 1991, c'est l'indépendance de l'Azerbaïdjan. J'espère que je le prononce bien. Mmh. La publication de Moby Dick en 1851. Et alors là, c'est assez magnifique parce qu'il n'y a que les Français qui peuvent faire ça. Hein, le pays ami. 1963, le lancement de la fusée française. Alors, le nom de la fusée, c'est une idée.
Laquelle?
Véronique.
Véronique.
Oui. Véronique.
Ah, Véronique.
Il n'y avait pas deviné avec.
Ouais, c'est quand même assez extraordinaire. Si on lance une fusée, elle s'appelle Véronique. C'est vraiment dégueulasse.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Et donc à bord, il y avait un chat. Donc c'est le premier chat élu et le seul hein, qui a effectué un vol suborbital. Il y avait eu le chien russe Laïka.
Ouais.
Et c'était une chatte qui s'appelait Félicette. Donc on est vraiment sur des prénoms dégueulasses. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Il a mis le maillot du Sporting, il est beau celui-ci. Hein.
François, il y a aussi Vandamme aussi. Hein.
Attends. JCVT, voilà, c'est 60 ans de Jean-Claude Vandamme aujourd'hui.
Ouais.
Les 51 ans de Pascal le grand frère, qui devrait venir à Calvi un peu éduquer ceux qui font les débiles sur le stade. Hein.
Et Giroud aussi.
Giroud, 82 ans. Jacques Higelin hein, aussi, ouais. Paix à son âme.
Il était né en 40.
Voilà, il était né en 40 et qui, voilà, pas très loin d'ici. Fréquentait un établissement très connu, hein, nos amis de chez Tao.
Chuck Berry aussi,
et
qui était né en 26.
En 1939, Lee Harvey Oswald,
yeah.
Hein, l'assassin de JFK, enfin,
le présumé.
Ou pas. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, c'est l'Alaska Day, forcément. Une bonne fête au Luc, au Gwendoline et au Edwige. Donc, moi, j'en ai pas trop là, dans le répertoire.
C'est aussi l'anniversaire de Thierry Amiel aussi, le chanteur. Thierry Amiel.
Je vois pas qui c'est.
Non, bah.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, c'était les un an de l'assassinat de Samuel Paty. Emmanuel Macron s'est mis en short. Ah, il a fait des émules. Là. Toutes les grand-mères étaient aux aguets.
Il prépare sa campagne.
Le carburant n'a jamais été aussi cher. Un petit big up à nos gilets jaunes. Alors, il y est toujours hein, au radar de la Légion. Hein.
Oui.
Tous les samedis, il y est toujours. Carburant à 1,55 sur le continent. Alors, je tiens quand même à dire, il râle parce qu'il est à 1,55. Ce matin, je suis passé. Le gasoil est à 1,70 et le sans-plomb est à 1,78. Alors, je me pose la question quand même de savoir, il y a une continuité territoriale. On est censé payer le même prix sur tous les biens.
Ouais.
Ben, ce n'est pas le cas. Donc, à quand ça va râler ici? Il y a toujours le courrier des auditeurs. Alors, je tiens à préciser qu'il y a une petite soirée Halloween faite par Mathieu Marquette qui était venu et qui a créé son propre jeu de plateau le 31. Il y a le Yoga Festival là, ce week-end de Pauline Tchekal. Et vendredi, il va y avoir le loto de la JS Calvi.
Petite parenthèse, on parle de 2 euros bientôt hein, pour l'essence.
On parle de 2 euros bientôt.
Bien oui, ça continue comme ça, ouais.
Magnifique, ouais. Magnifique.
Super.
Je vais les mettre dans une bouteille et je vais mettre en décoration dans la maison.
Ça va valoir de l'heure. Hein.
Alors, aujourd'hui, je reçois le beau gosse du tourisme. Je reçois l'historien, le musicien,
oula,
le chroniqueur TV.
Là, on sort des vieilles, dossiers, là, mon ami.
Hein. Ah, ici, moi, j'ai épuré ton Facebook. Hein.
Ah, oui.
Olivier Biancogne, Olivier, donc, tu nous as dit que tout allait bien. Je vais te poser la première question que je pose à tous les invités. Si je dois remonter un petit peu en arrière, si tu dois remonter un petit peu en arrière et nous dire quel est ton premier souvenir calvé comme ça, de but en blanc, qui te vient à l'esprit.
Certainement mes jeux d'enfant, je pense, dans Calvi. C'est ça qui me revient de suite quand je pense à cette ville. C'est ces jeux d'enfant dans les rues. Ma mère avait une cafétéria pendant plus d'une vingtaine d'années, hein, 27 ans, donc sur la place de la Porteuse d'Eau. Et donc, nous jouions avec mes camarades de quartier au Rocher, qui aujourd'hui est un hôtel. Et qui était un merveilleux terrain de jeu pour nous au premier âge, parce qu'on ne s'éloignait pas trop et on avait déjà un espace d'aventure, je dirais, juste à proximité, au fond de la rue. Et puis ensuite, le port de Calvi, la place du Lion, comme on l'appelait, la place Marshall, où l'eau coulait encore à la fontaine à l'époque.
L'eau coulait encore et des coups du monde se sont joués là.
Hein. Oui.
Au niveau scolaire, quel type d'élève tu étais ?
J'étais un élève bon, mais très rêveur. L'évasion, la fenêtre qui s'ouvrait justement vers le port, vers le golfe de Calvi, vers le large aussi, ou la montagne, me distrayait beaucoup. Et de ce fait, je rêvais, mais j'étais plutôt un bon élève jusqu'à l'arrivée au collège. Et puis ensuite, au collège, ça s'est un peu gâté parce que j'étais happé justement par la musique, qui a pris toute la place. Je suis quelqu'un qui s'engage peu, mais quand je m'engage, en général, je m'engage pleinement. Et là, pour la musique, je me suis engagé totalement pendant cette adolescence. Et c'était en même temps un exutoire. J'étais un adolescent un peu complexé, un peu avif, comme on en trouve beaucoup, hein, je pense, et donc rebelle. Et la musique était un vrai exutoire et en même temps une belle maison de formation qui m'a amené aussi plus tard à l'histoire, paradoxalement. Et donc, du coup, j'ai un peu mis entre parenthèses, je dirais, ma scolarité pour la musique. Et ma mère m'a redressé néanmoins, puisqu'elle m'a envoyé au collège et lycée Saint-Paul en internat. Ah. et donc du coup, ça a été évidemment une reprise en main assez radicale.
Néanmoins. Alors là, tout su, hein, ce petit passage musical, parce que moi, je suis la génération Hélène et les garçons, tu vois. Mm-hmm. Alors moi, je suis lancé de manière très furtive dans la musique, mais c'était vraiment pour... tu vois, faire comme Nicolas et tout. Je pensais que ça allait, à un moment donné, tu vois, me mettre derrière un clavier, tu vois. Je pensais que ça allait drainer une arrivée de filles incroyables. Non.
Moyen.
Non, ça n'a pas marché du tout.
C'est pas terrible. D'ailleurs, nous, on n'avait pas de succès avec les
ça
filles.
Ça n'a pas pris.
Hein. Ça n'a pas pris du tout.
C'est pas la bonne idée.
Alors, ensuite, donc, on va passer. Le lycée, ça se passe comment ?
Ben, ça se passe surtout en musique, hein, puisque dès cette époque-là, moi, je suis sur la voie d'un chemin professionnel, puisque je vais rentrer assez rapidement dans Andioladé, notamment. Donc initialement, j'étais plutôt dans le rock et le hard rock, donc même le hard rock, on va dire. Hein. Donc pas du tout dans ce registre-là. Et donc toutes ces années, lycée, bac, etc., moi j'étais sur les routes déjà. Hein. En parallèle, je faisais de la radio, et ça c'est important parce que ça a été très formateur. J'ai rejoint l'équipe de Radio Calvi Citadel au départ... comme on va dire apprenti technicien animateur, donc c'est Anto qui m'a formé et oui mais c'est vrai
et modeste.
Et donc je passais mon temps finalement entre la radio justement des études qui étaient chaotiques et ces tournées que l'on pouvait faire avec Andioladé ou d'autres formations et à la découverte donc à la fois du registre traditionnel insulaire de la composition issue de cet univers-là, et puis aussi très rapidement de la musique classique, notamment à travers les stages que je faisais avec Avileta, etc., qui m'amenaient vers des musiques un peu plus savantes, un peu plus
Et à découvrir aussi peut-être un peu le territoire.
Oui, aussi.
Est-ce que c'est ça qui a initié finalement plus ou moins l'activité que tu fais maintenant ? On va en revenir, mais est-ce que c'est le fait de sortir de Calvi et d'aller découvrir d'autres zones qui t'ont mené à cette activité-là ?
Assurément, parce que c'était une époque où donc je découvrais mon identité. Jusqu'alors, mon identité, je la vivais, mais sans y réfléchir, On s'est jamais posé la question afin de savoir qui on était, d'où on venait, qui étaient nos ancêtres, si nous étions français, si nous étions romains, si nous étions gaulois. On se posait jamais ce type de questions-là. Et pourtant, il y avait les attentats, il y avait, je veux dire, moi je suis né en 77, donc en 76, c'est la fondation du FNC, j'ai grandi là-dedans. Mais pour autant, les questions d'identité ne se posaient pas, jamais. Et la question se pose donc au moment où j'intègre justement ces formations de musique, on va dire entre guillemets corse, et où on confronte justement notre identité, on la partage plutôt avec justement des gens qui viennent du Pays Basque, de Bretagne où on tournait, d'Italie où on allait en Toscane jouer, à Paris et ailleurs. Et donc en effet, à ce moment-là, je m'intéresse davantage justement à mes origines fondamentales, l'histoire de la Corse, etc. Bien que j'ai été déjà bercé par l'histoire de la Corse, en tout cas, en partie, ou celle de ma famille, par mon grand-père, qui était lui aussi féru d'histoire, par un grand-oncle, Grimaldi notamment, qui m'a raconté les batailles napoléoniennes, etc. Mais ça, ce sont des souvenirs d'enfance lointaine. Et ça, il y a une résurgence, donc à ce moment-là, en effet, et avec tout un tel d'éléments qui amènent, avec la radio d'ailleurs aussi, hein, certainement, l'envie de quitter le studio et l'animation, pour le journalisme, justement, pour aller à la rencontre des uns et des autres, pour faire sortir la radio, d'ailleurs, à l'époque, on en parlait beaucoup avec Anto, de ces studios, parce qu'aujourd'hui, vous avez de beaux studios, à l'époque, ce n'était pas le cas. Hein, on était dans un poulailler, quasiment, c'est-à-dire on se retrouvait, plus un pigeonnier, d'ailleurs, qu'un poulailler. On était, en gros, dans les combles de l'ancien presbytère de la cathédrale de Calvi. Et donc du coup, les locaux étant difficiles d'accès, insalubres et vétustes, il était nécessaire certainement de sortir la radio de ses murs pour aller chercher l'information, le témoignage dans la rue et même au-delà de la rue, quoi. Voilà.
Donc du coup, après, tu t'engages dans cette voie-là et il y a la... Comment tu arrives ? Quel est le petit cheminement entre ce moment où tu découvres tout ça et la création de ta société ?
Alors, il y a, un cheminement, en effet, qui se fait. Donc, parallèlement, je dirais, à la musique, je me dirige de plus en plus vers le journalisme. Je réintègre Radio Calvi Citadelle en tant que salarié pour cette mission-là. Et on commence à développer plusieurs projets avec Anto. Moi, je me souviens d'avoir eu une émission qui s'appelait L'Artigiani. Donc, c'est une émission concernant l'artisanat, justement, de Corse. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. À l'époque, on ne va pas dire que ça a émergé. Ça faisait un moment déjà que c'était établi. Mais on sentait qu'il y avait une dynamique, hein, nouvelle. Et surtout une demande de la part du grand public autour de cela. Non seulement touristique, assurément, mais aussi de la part des locaux qui s'intéressaient aussi de plus en plus aux productions locales. Donc j'avais monté cette émission-là, donc qui était réalisée dans les conditions du direct, dans les ateliers d'artisans, chez les producteurs, etc. Ça s'inspirait aussi d'émissions qui se faisaient sur France Inter, par exemple à l'époque, ou avec des prises de son, on entendait vraiment comme si on était dans l'atelier, etc. C'était intéressant. Et puis ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Une dimension journalistique aussi pure avec de l'investigation. Donc là, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde sur l'ensemble du territoire de Corse, notamment l'essentiel de la classe politique, de tous bords confondus, beaucoup de personnalités issues du monde artistique, etc. Et puis une émission qu'on avait souhaité justement dehors des murs de la radio également, qui était itinérante et qui était en direct, qui s'appelait Payotte Party à l'époque, avec Anto. Ouais, c'était une référence à vos affaires célèbres des Payottes, aux mésaventures de Bernard Bonnet. Et donc c'est une émission qui se passait en direct en public, c'était tous les lundis, mercredis et vendredis. De 11h je crois à 13 ou 14h, je ne sais plus exactement, et ça se passait sur la plage de Calvi, en commençant par le port d'ailleurs. On était en général au bar de la Tour, par là, bar du Golfe, et puis ensuite on partait sur la plage et on écumait les établissements chaque semaine dans un établissement jusqu'à la fin en gros de la saison estivale. Et c'était un exercice intéressant, parce que le direct, tu le sais très bien, hein, c'est un exercice qui est à la fois difficile en même temps enrichissant.
Moi je le conçois voilà. Comme ça, hein.
Surtout que ça devient de plus en plus rare. Mais là, c'était en direct et en public, puisqu'on était sur la plage, donc les gens nous regardaient aussi. Et c'était assez long comme format. Donc, il fallait qu'il soit à la fois récréatif et en même temps informatif. Donc, on recevait des scientifiques, des politiques, etc. Et à la fois, on recevait des pin-up, des artistes, etc. Ça ressemblait dans une version Discount, quand même, il ne faut pas s'en cacher, à ce qu'on pouvait trouver sur le plateau d'une par ailleurs à l'époque. Tu vois, des trucs comme ça, où se mélangeaient les genres.
Un bouillon de culture.
Quoi. Ouais, un bouillon de culture qui était très, très récréatif, en tout cas, je pense. Et j'en conserve de très bons souvenirs. On avait reçu quand même des gens de qualité, notamment avec des fois des interviews non seulement enrichissantes, mais même poignantes. Je me souviens avoir reçu Christophe Tiozzo, le boxeur colossal, qui nous racontait son parcours chaotique, à la fois de jeunesse dans les quartiers populaires de Paris, mais aussi sa descente aux enfers ensuite.
La dépression.
La dépression, ça, ouais. La drogue et le reste. Et c'était poignant. C'était poignant, ouais.
Donc, du coup, création de la société, là, comment tu l'abordes? Tu dis, c'est un pari, je vais voir comment ça se passe, ou c'est quand même assez clair dans ta tête, c'est comme ça que tu veux voir les choses?
Alors, elle est arrivée un peu par accident, parce que je sortais de 2 années de formation à l'Institut français de journalisme, où j'étais entré par concours, qui est une école de journalisme importante à Paris, qui venait d'ouvrir. Et donc, je souhaitais poursuivre dans cette voie-là, mais le problème, c'est qu'en Corse, le milieu du journalisme, il est quand même assez restreint. J'avais aucune envie de partir. Donc, à ce moment-là, j'avais vraiment des ambitions en Corse. Je me sentais bien, justement. J'avais envie de voyager, mais plus de partir. Et donc, je me retrouvais un peu au pied du mur parce que j'arrivais dans une situation financière qui était compliquée. Je vivais chez ma grand-mère à Dili. C'était bien, hein, c'était formidable d'ailleurs comme expérience. Mais voilà, je vieillissais, entre guillemets. Et voilà, je commençais à avoir 28 ans. Donc, 28 ans, j'aspirais quand même à une vie un peu plus, en effet, autonome. Et je me suis dit, tiens... Puisque je recevais régulièrement à Radio Calvi Citadel des journalistes du continent, de télé, de presse écrite, de radio, qui m'appelaient parce qu'ils savaient que j'étais bien installé sur le terrain, que j'avais un bon réseau, et donc ils avaient besoin de moi pour réaliser leurs enquêtes, entre guillemets. Donc soit on partait dans le domaine politique, environnemental, ou alors purement sur des papiers touristiques, je dirais, hein, de l'information générique, la réserve de Scande, la Vierge de Balagne et compagnie. Donc du coup, j'avais ce réseau-là et ces connaissances. Bon, j'étais vraiment très très épris d'histoire, hein. Ça faisait une bonne dizaine d'années que j'en avais la passion et que je l'avais exercé dans le cadre de mes activités à Radio Calvi Citadel, où j'avais conduit un projet qui s'appelait Memoria di Balagna, notamment, c'est-à-dire de la collecte, hein, de la mémoire à la fois vivante, mais aussi des enquêtes de fond sur le Prince Pierre, ça a commencé à cette époque-là, sur l'histoire du réseau de chemin de fer, mais ligne de Balagne, etc., etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et donc, tout ce bagage finalement accumulé m'a conduit à me dire, tiens, pourquoi ne pas, en attendant de trouver mon fameux poste, développer des activités d'excursion complémentaires, parce que j'étais pigiste, je travaillais pour différents organes de presse en Corse, mais je gagnais mal ma vie.
Ah oui, oui, oui. Et, avoir testé.
Voilà. Donc, du coup.
On l'inspire.
Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, plutôt que d'en souffrir, je vais essayer de développer une petite activité parallèle qui va me permettre de faire entrer 3 francs 6 sous et ainsi de mieux vivre et de pouvoir attendre. Et donc, j'ai monté la structure donc en 2005 et avec aucune ambition particulière, si ce n'est de faire 2 ou 3 visites peut-être dans la pleine saison, avec l'idée néanmoins de travailler sur du petit comité, de partir du littoral pour aller découvrir toujours l'arrière-pays, de développer des thématiques historiques singulières et de toujours rattacher l'histoire à l'actualité de la Corse, de manière à ce que les gens puissent mieux comprendre le déroulement des événements quand on parle de nationalisme, mais pas que, même si on parle par exemple en Balagne par exemple de féodalité avec les villages médiévaux que l'on peut connaître, entre le 9e et le 13e, on peut développer ensuite jusqu'au clanisme, etc., jusqu'au rapport qu'entretiennent les Corses à la propriété, etc., etc. Donc, j'ai créé l'entreprise à ce moment-là. J'étais tout seul. Hein, donc, d'ailleurs, je ne pensais même pas embaucher un jour quelqu'un. Et la première année a été difficile. Mais par contre, le concept a intéressé beaucoup de monde. Donc j'ai eu de suite une couverture presse, certainement aussi parce que j'avais du réseau, hein, il ne faut pas s'en cacher, hein, importante. C'est-à-dire, j'ai eu même un papier dans le Figaro, donc c'est quand même pas rien.
Ah, et puis en plus, je pense que c'est à la période, moi j'ai un peu vécu, moi j'étais sur le continent, où les gens demandaient une autre forme de tourisme.
Ouais,
c'est-à-dire,
voilà,
c'est ça. Début des maisons d'hôtes.
Ouais, exactement. Ouais.
Moi, je voyais, j'étais sur le Var, les zones comme le Verdon, qui sont assez isolées, qui sont assez trucs. Il y avait des gens qui arrêtaient de travailler pour créer des maisons d'hôtes, où c'était pas cher d'ailleurs.
C'est ça. Tout,
parce que maintenant, on voit les tarifs, c'est plus les mêmes, puisqu'il y a de la demande. Et aller vers plus de l'humain, puisque c'est un peu le principe de ton objectif, au fait, de ta société, c'est un tourisme sous une autre forme, je dirais presque, pour être vulgaire, équitable, entre guillemets.
C'est l'idée. D'ailleurs, c'est, bon, à l'époque, c'était des concepts qui restaient encore vagues, en tout cas encore ceux qui étaient même inconnus, hein. Le tourisme durable, le tourisme équitable. Bon, maintenant, on met des mots dessus, on précise les choses, mais... En effet, comme tu disais très bien, hein, très justement, les maisons d'hôtes qui se créent à cette époque-là, en parallèlement, je dirais, sont complètement dans l'esprit, justement, de ce que je proposais.
Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'attente, en plus, de la part de ces gens-là.
C'est-à-dire
qu'il n'y avait pas l'aspect aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect financier qui est assez important, puisque ça génère énormément d'argent. Ouais. Mais je crois que les gens qui sont lancés dans ces trucs-là, ils y allaient vraiment de manière « je veux changer de vie, vivre
ouais,
mieux ».
C'est ça.
On était sur le bien-être. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent pour faire un peu de commerce.
Oui, parce que le temps a passé, donc les gens se sont rendus compte que la formule était aussi attractive du point de vue financier, mais pouvait l'être en tout cas, ça dépend comment elle est réalisée. Mais assurément, ceux qui ont commencé en effet les premières chambres d'hôtes, quand j'ai démarré mon activité, qui était la première compagnie de guides privés en Corse. C'est incroyable d'ailleurs. D'y penser, parce que c'est tard, 2005, finalement. Hein. Et avant cela, mis à part des initiatives associatives, je dirais, hein, mais qui restaient très marginales, il n'y avait pas d'excursion sur l'histoire, en tout cas de la Corse, qui soit proposée en dehors des bus. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'autre alternative au bus, je dirais, sauf à prendre ta voiture et aller visiter par toi-même. Et il y existait des associations de guides qui étaient rassemblées, donc qui fédéraient des guides individuels, mais il n'existait pas de compagnies, de guides privés qui proposent des excursions avec une prise en charge en monospace ou en 4x4, je dirais en tout cas en véhicule privé ou à pied, hein, au demeurant, sans faire de la randonnée, hein, juste des visites ponctuelles de sites, de cette manière-là. Donc c'était la première. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à convaincre et à expliquer aussi aux professionnels la différence qu'il y avait entre mon activité et celle des bus, parce qu'au départ, c'était pas clair.
Tu as ressenti... De la part de certains professionnels, donc des gens qui étaient installés et qui étaient là, tu as ressenti de la crainte ou voir des bâtons dans les roues?
Non. Pas de la part des hôteliers en tout cas, au contraire. Hein, ils ont même encouragé le projet. Alors certains avaient du mal à comprendre et les clients aussi. Donc si bien que sur les premiers prospectus que nous publions à l'époque, il y avait la photo des véhicules pour que les gens comprennent que c'était pas du tout un bus. Sinon, ils comprenaient pas, ils attendaient un bus. Moi, j'arrivais avec un monospace ou un 4x4 et ils me disaient « Il est où le bus ?» Et donc, il a fallu cheminer un petit peu. L'état d'esprit, c'était l'état d'esprit des compagnies, par contre, d'accompagnateurs montagne ou de guides de rando, qui, eux, existaient déjà, mais étaient en montagne, c'était avec une dimension plus sportive. Mais c'était le même état d'esprit. Moi, je me reconnaissais dans leur façon d'envisager les choses, leur manière d'accompagner les vacanciers, donc, ou les voyageurs, ou même les locaux, parce qu'on parle toujours de ceux qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi des locaux, même si c'est une dimension difficile, parfois, la clientèle captive, entre guillemets, est potentiellement importante et se développe doucement.
Oui, parce que plus les locaux sont... la tête dans le guidon, parce qu'on est tous soumis à la saisonnalité, qu'on le veuille ou non. Mm. On la subit même. Hein, moi, c'est comme ça que je le ressens après. Donc, du coup, ça leur permet peut-être avant et après saison de pouvoir finalement visiter le territoire dont les autres profitent pendant que nous, on travaille. Quoi.
Bien sûr, moi-même, je le fais. Hein. Moi-même, je suis touriste de la Corse. Là, ça n'a pas été le cas cette année, l'an dernier, parce qu'on a eu la crise Covid, donc on a dû travailler dur.
On va en revenir sur la crise Covid.
Il n'y a pas de problème. Mais juste avant, pour te dire, avec mon fils André, on partait régulièrement en pleine saison. Donc, on s'offrait ensemble 2-3 jours tous les 10-15 jours à peu près, hein, en pleine saison même, pour pouvoir partir en Corse justement et découvrir des secteurs de Corse, la région de Bonifacio, l'Altaro, la région d'Ajaccio ou de Corte, par exemple le Cap Corse, et la Casanica, en faisant des activités, en faisant de l'équitation, de la randonnée, de la voile, du canyoning, etc. Et il est très très enrichissant, même pour un guide, donc il tourne la Corse hein, depuis 20 ans comme moi, d'aller peaufiner ses connaissances ailleurs en Corse, d'aller découvrir comment d'autres travaillent, et pas pour faire
du copier-coller.
Non, du copier-coller ou aller faire du piratage quelconque industriel, pas du tout. Mais vraiment, par goût de la connaissance. Voilà.
Entre le moment de tâtonnement où tu te lances et le moment où ça prend, il se passe combien de temps ? Parce que là, aujourd'hui, on est sur une société qui a combien d'employés ?
C'est variable, mais c'est variable. Bon, là, on a baissé les effectifs, donc on tourne jusqu'à 5 personnes à peu près, parce qu'on est sur une période, évidemment, de crise Covid, donc, qui nous a fortement impacté, comme beaucoup d'autres, hein, bien sûr. J'ai eu jusqu'à une dizaine de salariés, à peu près, ouais. Donc, j'ai créé, d'ailleurs, une seconde compagnie en 2011, c'était Natura Gursa, que j'ai vendue par la suite pour d'autres projets, et qui continue, d'ailleurs, à se développer, et c'est très bien.
Et la bascule, elle se fait quand, finalement, entre le moment où tu dis « je me lance », et la prise et l'assurance, parce qu'après il y a le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Ouais. Et où tu t'es dit, bon, là je suis.
Ben, la première année, c'était très très dur, honnêtement. Hein. Je suis resté chez ma grand-mère, je me suis même demandé si j'allais enchaîner une deuxième saison, parce que je me souviens, on avait en moyenne 2 clients par jour. Donc maintenant on en passe des dizaines de milliers, hein, donc c'est plus tout à fait la même, hein. Mais à l'époque c'était 2 par jour, donc c'était une catastrophe, hein. Je louais le véhicule parce que je n'avais pas eu les moyens de l'acheter. J'avais un ami que j'ai toujours, qui a beaucoup de talent, un photographe, Olivier Gomez, à Lumio notamment, qui m'avait fait toute la communication parce qu'il lançait son entreprise aussi. Donc j'avais bénéficié d'un tarif très avantageux à l'époque, et en plus de toutes ses compétences, je dirais, parce que c'était devenu la vitrine, son travail, de ses activités nouvelles en Corse. Mais c'était très difficile. J'avais, il faut le souligner, des gens qui m'ont aidé, en tout cas moralement. Edmond Simeoni, par exemple, hein, que je connaissais pas personnellement à cette époque-là, qui m'a contacté. C'est là qu'on est devenu amis et on a commencé à se côtoyer. Donc il s'est intéressé à mon travail. Lui avait un projet justement de villa à Calvi, etc. Donc il voulait savoir comment on pouvait travailler ensemble sur ce nouveau type de tourisme. Il y a la maman, feu, la mère, hélas, de Stéphanie Cecagli, notamment, que je connaissais très bien, et qui m'avait donné de très bons conseils, qui me sont encore utiles aujourd'hui, sur les excursions notamment, et qui m'ont permis, là pour le coup, on va parler argent, de gagner beaucoup d'argent.
Ah.
Donc tu vois, il faut savoir écouter les conseils des professionnels, et donc j'en serai toujours reconnaissant. Je suis pas sûr d'avoir eu l'occasion, hélas, de son vivant de lui dire, mais si Stéphanie nous écoute, en tout cas ça lui fera plaisir de le savoir.
Alors entre le début et aujourd'hui, après on va passer sur un autre petit passage de ta vie, sur le début, sur les excursions que tu faisais, et aujourd'hui, est-ce que tu te dis, ouais, quand même, ce que je proposais, c'était l'edge, et aujourd'hui tu es content parce qu'il y a eu l'expérience, la maturation aussi du truc, de te dire, bah, maintenant je propose un produit qui est fini, qui est bien, les retours sont bons. Est-ce que tu te dis, ouais, en 20 ans finalement, presque. Je me retrouve avec quelque chose qui est concret et fini.
Oui, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, hein. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le travail qui a été fait en amont, qui est le mien, mais quand je parle de nous, c'est pas parce que j'ai un ego surdimensionné, c'est parce que je parle de l'équipe. Pour moi, l'entreprise a été une réussite parce qu'il y a eu une équipe, donc des gens que j'ai formés initialement, comme Benjamin Casinet, qui était rentré la deuxième année d'activité, qui est resté une dizaine d'années dans l'entreprise, Charles Guyel, qui lui est rentré quelques années plus tard, que nous avons perdu hélas l'hiver dernier, et qui était un élément d'exception, je dirais, hein, par ses connaissances, architecte des Pelgiers, de métier, de spécialiste dans la restauration de patrimoine bâti, attaché parlementaire à l'Assemblée nationale, guide conférencier. C'est un type qui guidait en Italie, à Florence, à Naples, à Rome. J'ai appris énormément à son contact aussi. Donc forcément, les programmes initiaux se sont bien améliorés depuis. Mais très honnêtement, hein, et sans flagornerie, je dirais, il n'y avait pas à rougir déjà de la première mouture. Sur les premières années déjà, on avait l'objectif de faire vraiment les choses convenablement, avec le niveau de connaissance qu'on pouvait avoir à l'époque, qui n'était pas risible, honnêtement. Hein. Et on donnait le meilleur. Moi, je me souviens de beaucoup d'excursions que j'ai faites, notamment la première année, mais même les années suivantes, où je partais pour des journées entières avec deux clients. Ce n'était pas des sorties privatives comme on peut l'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire deux clients qui payaient un wagon. Mmh. Non, c'était deux clients qui payaient 40 € la place, 80 €. Et on partait pour une journée, donc en gros c'était le prix de l'essence, bon, j'exagère un peu, hein, parce qu'elle est chère comme tu disais tout à l'heure, mais pas aussi chère que ça quand même. Mais en gros, je ne gagnais quasiment rien de ma journée, mon objectif étant de les satisfaire. Et quand on les ramenait à la maison, ils étaient même gênés qu'on les ait pris en charge pour si peu. Et je leur disais, écoutez, très bien, j'ai rien gagné aujourd'hui financièrement, mais je vais le gagner parce que vous allez voir l'hôtelier, en l'occurrence chez lequel vous êtes, et vous allez lui en faire une tête comme ça. Et c'est ce qu'il faisait. Et mais j'avais d'ailleurs un retour sur les hôteliers, ils me disaient, on n'a jamais vu ça. Mais c'est normal parce qu'on avait une prise en charge qui était particulière, un prix qui était dérisoire.
Je tiens à préciser qu'en plus, quand il y a des désistements,
ouais.
Souvent, alors là, c'est quand même pas mal et c'est une bonne idée. Tu proposes à des locaux
de
venir rejoindre finalement et d'offrir les places pour une excursion et tout.
Ça
donc
regardez
de temps en temps le Facebook, les réseaux sociaux à Olivier parce que il se peut que des fois ça peut arriver.
Oui, ça arrive assez régulièrement, hein, et c'est normal. Je veux dire, quand on a une place disponible, elle est là. Je veux dire, moi, elle me coûte pas plus cher qu'elle soit, je dirais, chauffée ou pas. Alors, donc, autant que quelqu'un en profite et que les Corses, justement, puissent venir avec nous de temps en temps, découvrir d'autres régions, se détendre ou voir la façon dont on travaille.
Passionné de culture, et du coup, tu t'es un peu investi. Après, on parlera du petit passage politique.
Ouais, ouais.
C'est en 2015 ou 2014, la création de la prise de Cittadella d'Afa.
Ouais.
Donc, c'était un établissement dans lequel tu as souhaité instaurer un système de conférences, voilà, de mise à disposition des locaux l'hiver. Et ça, c'est très important. Un accès à la culture, quelle qu'elle soit, parce qu'il y avait un peu de tout. Comment elle est venue l'idée ? C'était une opportunité. Tu dis, tiens, finalement, mon activité, elle est pas mal sectorisée l'été. Je voudrais faire quelque chose l'hiver. Ou finalement, c'est l'occasion qui a fait le larron ?
Alors, en fait, c'est encore un accident. C'est-à-dire que l'idée est arrivée de deux éléments. Un constat triste, hélas, mais je veux dire, le Calvi dans lequel j'ai grandi s'est désertifié, hein, a perdu son dynamisme pendant l'hiver, notamment actuel. Et donc, bon, c'est une ville qui est en souffrance l'hiver du point de vue social, du point de vue culturel, même si le tissu très riche des associations que l'on connaît en Balagne à Calvi.
Essaye de pallier justement.
Mais essaye de pallier, voilà, nourrissent quand même évidemment l'habitant de tout un tas de propositions et heureusement. Mais il y avait quand même en effet ce désert. Ce désert, j'ai un ami qui a dit très justement, je trouve ça remarquable, que Calvi l'hiver c'est Saint-Ambroise joue avec une école. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc pour sortir de là. Là aussi, en restant raisonnable, on ne peut pas avoir une ambition démesurée avec un petit établissement comme Cittadella d'Afa, mais je voulais proposer quelque chose, voilà. Créer un établissement qui soit ouvert quotidiennement, pendant la période hivernale seulement, pour montrer qu'on peut s'intéresser seulement aux locaux et pas chercher forcément derrière à faire du business. Mon business, je le fais déjà sur les excursions, je n'ai pas besoin d'en refaire encore l'hiver.
Et puis même, c'est chronophage en plus.
C'est chronophage en plus, voilà. Et surtout, créer un établissement qui puissera rassembler différentes générations en fonction des thématiques qui sont proposées, dans un univers plus de maisons que de bar lounge. J'ai rien contre les bar lounge, mais là c'était une autre proposition, quoi, hein. Quelque chose de plus chaleureux, quoi, qui ressemble à une maison dans laquelle le temps s'arrête, tu vois, un peu hors du temps et hors lieu. La décoration n'est pas une décoration corse, volontairement, tu vois, c'est une décoration qui t'amène ailleurs. Alors tu peux te demander si tu es pas dans une ville quelque part en Italie ou à Paris, dans un quartier un peu,
dans un petit peu... salon anglais,
ouais pourquoi pas, tu vois, mais enfin ailleurs en tout cas. Et puis pour proposer en effet une programmation culturelle très hétéroclite, culturelle et récréative, de manière à ne pas tomber, si tu veux, sous le coup d'élitisme, hein, ou à un moment donné une sélection qui se fait par l'élite comme ça. Et donc du coup il y avait une proposition très larges, avec du théâtre, avec des concerts de création, hein, vraiment, avec des artistes qui composent, qui jouent leur musique, et puis aussi de l'animation. Donc ça c'est un côté plus récréatif, m'intéressant quand même. Des conférences très régulièrement sur tous les sujets, pas que l'histoire, mais aussi les sciences, etc., la médecine, beaucoup de choses, le domaine social, le droit, du cinéma, parce qu'il n'y avait plus de cinéma qu'à Lviv. Alors évidemment, on n'a pas remplacé le cinéma manquant, c'est impossible.
Oui, non.
Mais on avait un ciné-club qui fonctionnait tous les mercredis soirs, où c'était gratuit. La séance était gratuite, projetée donc sur un grand écran avec un son, un gros son, puisqu'on utilisait une sono professionnelle. Et on avait la particularité de pouvoir déjeuner, enfin non, dîner plutôt le soir, donc, en regardant un film, une projection. Donc il y avait des soirées de court-métrage, il y avait des choses qui étaient proposées, qui étaient... j'espère assez intéressante. Et puis de temps en temps du vrai récréatif, tu vois, on a eu même les Chippendales, ouais. Donc parce qu'on avait une clientèle très féminine, donc
féminine peut-être dû au propriétaire des lieux,
non, hein. je pense pas parce que le propriétaire des lieux, tu sais, on a fait le tour, hein, et puis non mais honnêtement, hein, au bout d'un moment on finit par en faire le tour, donc je pense que voilà, les gens ont besoin de s'amuser, de se défouler aussi. Et c'est parti d'un pari. Et en fait, ça m'a amusé au final. Honnêtement, ça m'a amusé. Moi, je suis pas un clubbeur.
Oui, parce que officieusement, c'est pas avec ça. Bon, on en a parlé avant l'émission. Voilà, tu finissais à l'équilibre.
Ouais.
C'est pas une entité qui t'a permis d'exploser ton banquier commence à te tutoyer.
Non. Et il me vouvoie depuis.
Et moi aussi, ouais, tous les débuts de mois, il me demande si ça va et après il me demande qu'est-ce que je compte faire pour mon compte. Et je lui dis rien, j'habite à Calvi. La Covid a tué l'établissement.
La crise Covid a mis un terme en tout cas à la dynamique engendrée et m'a coûté très très cher, comme à beaucoup. Hein. Mais Cittadella d'Avar, en effet, comme tu le disais, ce n'est pas un projet économique, c'est un projet culturel et c'est du mécénat. C'est-à-dire que moi, j'ai investi mon argent personnel, celui de ma compagnie, qui marche très bien, pour faire tourner justement un établissement et pour garantir qu'il ne soit ouvert que l'hiver et pas l'été. Tu vois, j'avais plein de propositions, hein, pour le faire fonctionner pendant l'été, et donc on les a écartées. Et en l'occurrence, donc ça m'a coûté très cher, mais je le savais initialement, c'est-à-dire je savais où je mettais les pieds. Donc pour faire fonctionner l'établissement, il fallait en effet qu'il y ait un public. Mais en même temps, compte tenu du fait qu'on faisait venir aussi des gens de l'autre bout de la Corse, il fallait payer les chambres d'hôtel, les restaurants, le ci, le là, les cachets, ceux qui venaient du continent pareil. Donc ça coûtait très cher et c'était à l'équilibre. Avec le Covid, bien entendu, l'équilibre s'est rompu. Et donc du coup, comme c'est un établissement que j'ai acheté, que j'ai reconstruit, hein, je dirais, on est reparti de zéro, on a tout refait à l'intérieur. Ça a été quand même financièrement difficile. Ouais.
Et tu as dit quelque chose qui était intéressant parce qu'au fait, au départ du truc, tu m'as dit il y avait le constat, c'est qu'il n'y avait pas de centre culturel et tu t'étais presque donné une deadline. Finalement, quand il sortira de terre, est-ce qu'il aura encore vocation à avoir ce lieu-là? Alors, on pourra toujours débattre sur l'emplacement,
oui,
du centre culturel, la pertinence du truc, peut-être l'ascenseur émotionnel entre le premier projet, le second
bien
et
sûr,
tout. On va laisser ça au conseil municipal, ces débats-là. Mais il y avait cette réelle intention de se dire je vais essayer sans prétention, sans flagornerie, tu l'as dit, essayer de combler un peu ce manque, parce que les associations ne peuvent pas supporter non plus tout le temps et amener peut-être autre chose, puisque c'est en hybridité, parce que chacun a son domaine de compétences. Il y avait de ça dans l'idée,
bien sûr. L'idée, comme tu dis, c'est en effet de créer cet établissement de la culture, du récréatif et du social. Les gens peuvent se rencontrer, hein, à la différence de peut-être juste un concert où on va se voir.
Il y a des couples Cittadella d'Affa.
Ah ben oui, il y a même des bébés Cittadella d'Affa, incroyable, hein, à Île-Rousse notamment, et peut-être d'autres dont j'ignore tout. Pas les miens, hein, a priori. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des rencontres, en tout cas aussi des rencontres artistiques, des rencontres humaines. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis. Je pense que beaucoup de gens s'en sont fait aussi à cette époque-là. On se rendait compte que la Balagne, elle est riche de sa population, de sa diversité, même en hiver. Il y a quand même plus de 20 000 habitants en Balagne, donc ils sont devant Netflix dans leur maison enfermée, mais ils peuvent aussi se rencontrer. Et là, on se rendait compte qu'il y avait plein de gens qui avaient des choses à raconter, qui avaient vécu des choses, et tous les jours, on rencontrait des gens différents qui venaient de Balagne en plein hiver. C'était surprenant, donc c'était vraiment une expérience intéressante. Et en effet, la deadline, comme tu disais, c'était la construction à Calvi d'un vrai centre culturel. Donc j'avais comme ambition, en effet, d'arrêter les activités de Cittadella d'Affa à ce moment-là. Bon, on est un petit peu en avance sur le calendrier. Bon,
Covid oblige. Hein.
Voilà. Mais je suis satisfait, en tout cas, d'apprendre que la première pierre a été posée. Quelle que soit, en effet, la nature du projet, j'attends de voir, comme beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas condamner non plus avant que ce soit mis en route. On verra sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour Calvi et la Balagne que la culture puisse s'exprimer dans les années qui viennent dans un cadre plus conforme, je dirais, à ses besoins.
Il y a le moment de tension de l'émission. Il y a des questions qui fâchent. Alors, on met une petite musique d'ambiance à chaque fois. Si cher à notre ami Anto, Ennio,
eh oui.
Ennio Morricone. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il y a le tourisme, il y a l'année Covid qui a impacté tout le monde au niveau financier, l'usure du temps, de l'activité, la concurrence, tes passions, est-ce que ça ne va pas te pousser à t'abandonner? Parce que je vois que j'ai l'impression, moi en tout cas, que tu tournes vers un petit peu l'écriture, qu'on va pas tarder à voir des choses. Et est-ce qu'à un moment, une nouvelle passion, un nouveau domaine va pas t'emmener à... Et puis après tout ce que j'ai dit aussi, hein, l'usure du temps, la société va avoir 20 ans, est-ce que ça va pas t'emmener à abandonner la société?
Alors la société, non, parce qu'elle marche très 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 bien et que au contraire, elle se développe.
Tu as toujours envie de te lever le matin
quand
t'arrives
la saison. Ouais, j'ai vraiment une passion. Donc là, j'ai travaillé comme un forçat justement pendant 2 ans pour combler le déficit de Cittadella d'Affa, pas de l'entreprise, parce que et j'ai réussi. Donc
parce
là,
que
on
ça
arrive.
Reste quand même schizophrénique la saison. On se lève tous les matins. Il n'y a pas de repos.
C'est chaud.
Donc à un moment donné, ça peut s'entendre, se dire bon.
On peut fatiguer, on fatigue en fin de saison, mais on fatigue physiquement, un peu moralement, parce qu'on a besoin de se reprendre. Mais la société marche très très bien. Là, on a fait une saison remarquable au vu de la situation. Hein, je dirais, on a même fait un mois d'août qui est le meilleur de l'histoire de l'entreprise. Bon, c'est conjoncturel, hein, on en parlait pour d'autres établissements aussi. Quoi qu'il en soit, ça marche bien. J'ai toujours la même passion. On a des projets dans l'entreprise qui vont l'amener justement à développer d'autres manières d'envisager la visite guidée sur d'autres supports en matière de déplacement notamment, etc. Enfin, on y viendra quand ce sera un peu plus concret. Donc moi, je me forme encore dans différents domaines pour pouvoir justement supporter ces projets-là. Donc c'est intéressant. Par contre, et tu vises très juste, J'ai 44 ans, alors je ne suis pas très vieux, mais je ne suis plus très jeune non plus. Hein. Il faut être objectif. Hein. Parce qu'on a toujours tendance à repousser.
On ne peut pas être et avoir été.
Voilà, on a toujours tendance à repousser l'âge de la vieillesse, entre guillemets, enfin, tu sais, la dimension d'être vieux.
Ah, moi, j'ai senti que les 40, là, ça faisait mal. Hein.
Voilà, à un moment donné, donc on a plus 20 ans, on n'a pas 30 ans non plus, donc j'en ai 44. Et en effet, l'écriture, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Je m'y suis livré là justement parce qu'avec la crise Covid, on a eu du confinement et on a eu du temps pour achever quelques travaux en cours. Donc j'ai sorti l'an dernier deux bouquins, un chez Albiana qui s'appelle Grande demeure de Corse, qui est un très gros bouquin en sous-titre. C'est les maisons patriciennes du temps des Bonaparte, donc entre 1769 et 1870. Et donc c'est un ouvrage très très important qui a été écrit sous la direction de Jean-Marc Olivesi, donc directeur notamment de la maison Bonaparte d'Ajaccio. Et puis un autre dont je suis satisfait parce que Calvet, c'est Christophe Colomb Calvet, Entre mythes et réalité, qu'on a coécrit avec Michel Verger-Franceschi, donc j'ai eu la chance de travailler avec un des plus grands professeurs de Corse.
Alors on pourrait faire quelque chose quand même pour cette stèle là qui est régulièrement souillée, on pourrait quand même faire quelque chose, la mettre plus en avant. Hein.
Peut-être la déplacer déjà,
oui, voilà.
La mettre sur le lieu de la maison dite de Christophe Colomb, ce serait pas mal. Et de créer un jardin là peut-être en souvenir justement.
Il y a des choses à faire. Voilà, parce que moi j'avais été à La Rochelle, ils ont Surcouf qui était corsaire, ouais. Et ils surjouent. Enfin, c'est pas qu'ils surjouent, c'est-à-dire qu'ils vont à fond dans le truc.
Ouais.
Donc, comme en fait, moi, Christophe Colomb, mon grand-père a pas mal écrit dessus. Si on a la prétention de s'approprier sa naissance, il faut jouer le truc à fond.
Alors nous, dans le bouquin, on met un bémol sur cette prétention-là, parce qu'on a fait une découverte. En faisant de la généalogie inversée, ce que la plupart des historiens jusqu'à présent ont négligé en fait, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher les ancêtres de Christophe Colomb en Corse, notamment des documents qui auraient existé, qui auraient disparu, etc., etc., on a fait la généalogie inversée, on est allé voir ce qui se passait en dessous, et en fait là on a trouvé la clé du mystère.
Ne dis rien, on va pas spoiler. Non, on va pas spoiler. On va acheter le bouquin. Attends, dis-moi, c'est la crise à un moment donné.
Alors le bouquin d'ailleurs demeure, si on le cherche en ce moment, parce que là il est en cours de réédition. Donc on en a vendu 500 déjà, ce qui est très bien parce que ça reste un thème très marginal. Hein, je dirais, ça concerne Calvi, un petit peu la Balagne, la Corse pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire de Corse et à ses légendes ou ses mystères. Quelques professeurs d'université ou quelques passionnés du thème à l'extérieur, mais pas beaucoup plus. Là, on est en train de le rééditer et on le trouve actuellement, en tout cas, je sais que là, il y en a, à l'Office de tourisme de Calvi.
Alors d'ailleurs, moi j'ai une question, puisque aujourd'hui, on est dans une société où on déboulonne un peu les choses. Aux États-Unis, il y a des mouvements qui se font et qui enlève les statues de Christophe Colomb, tout ça. Comment toi, tu le vois, au fait, ce genre de choses? Parce que finalement, c'est quand même une partie de l'histoire qu'il ne faut pas occulter.
Oui, oui. Je le comprends d'une certaine façon, parce que ce sont des réactions qui sont impulsives, qui sont immédiates. Et aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiat. Voilà, en effet, on n'a pas tendance à prendre le temps de la réflexion, de l'étude, avant d'avoir un avis et d'avoir une réaction en liaison. Donc, je comprends, mais évidemment, je désapprouve, hein, forcément, parce que je pense que ce sont des raccourcis qui, en plus, donnent des réponses à des questions historiques ou à des clivages qui sont radicales et qui ne permettent pas justement l'échange. Moi, je pense qu'il est intéressant de conserver les statuts et par contre, de mettre en place des systèmes qui permettent aux enfants notamment, et puis pas que les enfants, hein, les grands aussi, de comprendre, d'utiliser ce support-là en disant, voilà, quand on parle de Napoléon, par exemple...
À connaître son passé, Colomb, on peut mieux aborder le présent.
Voilà, on parle de Napoléon, par exemple, qui est un personnage très, très clivant, en effet. Mais on en parle avec, en effet, ce qu'il a pu apporter à la société et en même temps ce qui a été sombre dans son parcours. Mais finalement, ce sont des choses que l'on retrouve chez chacun. Voilà, on a tous une part d'ombre. Donc, il est important de certainement de faire de la pédagogie en la matière.
Alors, deuxième et dernière question qui fâche, avant les questions flash. Il y a la politique, voilà, tu es quelqu'un qui est impliqué, intéressé. Alors, je ne vais peut-être pas dire impliqué, je vais dire intéressé. Mm-hmm. Tu es toujours intéressé à la chose. Et comment tu en es venu là, au fait ? Par des rencontres ?
Alors, j'en suis venu là par le Conseil de développement du Pays Balagne, auquel je participe depuis très longtemps, depuis pas 20 ans, mais presque, hein, donc 15 ans, je pense. Je suis membre de ce conseil-là depuis une quinzaine d'années. Donc, ça fait longtemps que je me pose des questions sur l'avenir de la Balagne, que je me positionne à travers les travaux que nous réalisons, ou même que j'agis au sein notamment du GAL, du groupe d'action locale notamment, qui administre le fonds du programme Leader, hein, le fonds européen donc de financement de projets. Donc je suis sur ce programme-là depuis très longtemps. Et donc là, c'est d'une vraie action qui n'est pas politicienne, on va dire, hein, mais qui est politique au sens noble, en tout cas du terme. Et donc là, il y a eu de vraies réalisations, de vrais engagements, de vrais projets qui ont été conduits depuis une quinzaine d'années. J'ai même été président du Conseil de développement du Pays de Balagne, donc ça c'était en 2014, après mon premier engagement politique, politicien cette fois-ci, à l'occasion des municipales, donc à Montegrosso. Montegrosso, dont je suis originaire, moi je suis ma famille est de Lunghignano. Et donc c'est à Montegrosso, il me semblait nécessaire, disons, d'aider à la conduite d'une liste d'opposition. J'en étais pas le porteur, hein, mais j'ai aidé sur le projet, sur la communication notamment. On a perdu, on a fait 40% des voix, ce qui est pas mal, hein, c'était une première fois. Et c'était une expérience très enrichissante pour moi. Je suis pas quelqu'un qui a une étiquette politique particulière. Je suis nationaliste depuis très longtemps. J'ai des convictions, mais je suis attaché à aucun parti. Voilà, je suis attaché à aucun parti. J'aime cette liberté-là, d'ailleurs. Et donc en 2014, première expérience sans étiquette, d'ailleurs, hein, constructive néanmoins, mais un échec politique. Derrière ça, je suis président du Conseil de développement du pays, quelque temps. Et ensuite, donc, une nouvelle aventure, donc, il y a quelques mois maintenant, à l'occasion, donc, des territoriales dernières, avec Coursiga Libre, cette fois-ci, donc, en soutien à Jean-Guy Talamoni, notamment, et sa liste, dont je faisais partie. Alors, j'étais pas en place éligible, hein, tu l'as remarqué. Donc l'objectif n'étant pas de rentrer à l'Assemblée, j'ai ni expérience,
oui, alors là, en
ni
plus,
ambition.
Le postulat quelque part, moi je ne vais pas me faire l'avocat du diable, le postulat quelque part de cette liste, c'est qu'on savait qu'elle allait être
difficile.
Oui, ça allait être une élection difficile, voire même qu'elle allait passer à la trappe. Mais en connaissant le postulat, tu t'es quand même, tu t'es quand même engagé.
Oui, je me suis engagé sur la base en plus d'un poste non éligible. Donc avec aucune ambition. Donc quand tu te places 40e, je sais même plus combien j'étais sur la liste, dans cette conjoncture-là, tu as plus à perdre qu'à gagner.
Oui.
Tu as plus de coups à prendre qu'à donner, clairement, hein. Mais ça me plaisait parce que justement, j'ai des convictions. Et donc mes convictions dépassent les enjeux politiques. Voilà, j'ai pas d'ambition. Quand tu as pas d'ambition, tu es détendu par rapport à la question. Quand tu as aucune ambition en la matière, tu vois. Et donc j'étais détendu par rapport à ça. Ça m'a permis de vivre une campagne empirique justement au sein d'un parti historique. Donc ça, c'était quand même pour moi un honneur, hein. C'est un parti qui a porté quand même des idées très importantes en Corse, qui aujourd'hui sont partagées même par l'essentiel de la population ou de la classe dirigeante insulaire. Moi, j'ai la mémoire de qui a porté ces idées-là, et donc ça me faisait plaisir justement de pouvoir, dans cette conjoncture-là, essayer d'aider. Et puis j'ai pu travailler avec des gens très intéressants. Alors en Balagne, bien sûr, Marie Simeoni, qui est une amie, mais au-delà de ça, Jean-Guy Talamoni, que j'ai pu connaître beaucoup mieux dans ces circonstances. Et c'est une expérience donc, que je ne regrette pas. Je regrette évidemment le score qui a été réalisé, parce qu'à quelques voix près, ouais, quelques je dirais finalement, voix, ça, oui, ça passait. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais bon, je félicite néanmoins le score de Corinne Front, et qui est remarquable, et qui est en plus mérité, hein, au vu de la campagne, des positions qui ont été prises, de la clarification. Bref, une belle campagne a été réalisée. Et puis, le score général des nationalistes, avec évidemment celui de Gilles. Donc, tout ceci est de bon augure. Affaire à suivre maintenant, oui, je vais te dire, hein, parce que il y a beaucoup d'attentes désormais. Je veux dire, les nationalistes ont tout entre les mains. Donc, on a bien vu ces 5 dernières années que la présidence de la République n'a non seulement pas bougé sur ces questions-là, alors que le président, qui n'était pas président mais candidat,
s'annonçait du pacte girondin.
Des Girondins. Alors peut-être qu'il parlait de l'équipe de football dont il était supporter. On avait mal compris.
En plus, c'est l'OM.
Bah, tu vois, je ne savais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'attentes. Donc, assurément, maintenant, j'imagine que la prochaine échéance sur le calendrier, c'est les présidentielles, pour savoir
qui vont déterminer. Oui, voilà, ça.
Qui sera finalement le personnage avec lequel on va engager le dialogue. Mais il est fondamental maintenant d'avancer sur la question de l'autonomie de la Corse. Sans ça, les nationalistes vont finir par en payer les conséquences.
On va passer aux questions flash. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle ?
La loyauté.
Un défaut ?
L'impulsivité.
Un héros de la vie réelle ou de fiction ? Est-ce que tu en as un qui te suit depuis longtemps ?
Saint-François d'Assise.
Ah. Ce que tu détestes le plus chez l'homme ?
Le manque de générosité.
La chose dont tu es le plus fier.
Mon fils.
Est-ce que tu as une insulte qui te suit, voilà, l'insulte préférée, c'est, tu peux y aller, hein, ici on est en direct, on s'en fout, c'est mon émission. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui te revient souvent, qui te scape quand tu t'énerves?
C'est difficile. Hein. Je jure, hein, aussi. Hein. Mais alors, une insulte préférée. Alors, ma grand-mère en avait une et je la trouvais extraordinaire. C'était comme ça qu'elle. Enfin, quand elle était en colère contre moi, c'était les mots qu'elle me disait. Elle me disait impiastro. C'était extraordinaire.
La dernière fois que tu as pleuré.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un peu moins d'un an. Ils vont donner les circonstances.
Ah oui.
C'était l'occasion d'une rupture.
Ah, une phobie.
Une phobie. Alors, une phobie, ça risque de paraître un peu misogyne. Tant pis. Mais c'est la capacité, enfin, pas la capacité, comment dire, certaines femmes ont, portent en elles, je dirais, une certaine propension à l'hystérie. Pas toutes, hein, attention, hein, je te rassure, même, on va dire, que les choses soient claires, une minorité. Mais cette propension à l'hystérie féminine, et quelque chose qui m'a toujours effrayé.
Parce qu'en tant qu'homme, c'est difficile de répondre, parce qu'après, c'est difficile à gérer une situation de conflictuelle avec une femme déjà.
Alors, ça n'a pas de rapport avec la rupture dont je parlais précédemment, parce que sinon, il y a. Attention.
Un péché mignon.
Mais ça, ouais. Un péché mignon. Peut-être. Alors, non, j'allais dire la gourmandise en vieillissant, parce qu'en vieillissant, moi qui n'aimais pas les sucreries, je commence à les aimer. Mais non, c'est pas ça. C'est la paresse. Ça peut sembler paradoxal par rapport à tout ce dont on a parlé, mais j'y aspire parfois.
Et si tu pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant que tu étais à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais d'être courageux. Et d'écouter davantage ce que les vieux lui racontent.
Oui, et que maintenant on répète en disant finalement ils avaient raison. Écoute Olivier, je te remercie d'être
c'est
passé.
C'est moi qui te remercie.
Nous sommes toujours en bisbille tous les deux, puisque je te rappelle que tu connais très bien. Alors ma femme, je profite qu'elle est en formation à Bastia pour le dire. Ouais. Stella Versigne.
Ah, Stella, oui. Très bien, oui.
Et je compte bien la rencontrer.
Ah.
Donc, il faut que tu provoques
une ce rencontre.
Rendez-vous. Il faut que tu provoques ce rendez-vous.
Un rendez-vous de jour.
Un rendez-vous net. Non, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et en plus, voilà, tu as dit, j'ai 40 ans, je n'ai plus aucune illusion sur... la rencontrer, boire un café.
Bon, c'est une fille au demeurant abordable. Hein. C'est quelqu'un de simple, en dépit de son profil
sophistiqué.
Sophistiqué. Ouais. J'ai eu l'occasion de la croiser. J'en perds ma voix pendant la campagne, bien sûr, mais aussi davantage, je dirais, à Città della Dava, justement, 2014, puisque c'était elle qui était devenue l'image, l'égérie de l'établissement, justement.
Donc,
à l'occasion de la première campagne de publicité.
Calvi,
on organise donc un café. On va au bar de l'amour.
Et je fais la photo.
On ira au bar de l'amour, hein, sur le port, au bar de la tour. Et on ira faire la photo ensemble.
Allez, c'est bon, j'ai gagné.
Fais mon gosier.
Nagui.
Oui.
On se dit lundi prochain.
Lundi, on sera là.
10h30, oui. Comme d'hab.
Mmh, pas de souci.
Le nom de l'invité, ça a un rapport avec Octobre Rose. Voilà, je laisse les gens, je tease un peu, tu vois, histoire de générer un peu de suspense et d'envie.
Ouais. À lundi.
Chers auditeurs, merci beaucoup. À lundi prochain.